Il est 23h en temps universel, 1h ici à Paris. Merci d'écouter RFI.
Mathis Limano.
Nous ne pouvons pas rester indifférents face au génocide à Gaza. Les mots du président brésilien en ouverture du sommet des BRICS. Le club des pays émergents réclame un cessez-le-feu immédiat et le retrait de l'armée israélienne de l'enclave. Un accord de cessez-le-feu a de bonnes chances d'aboutir dans la semaine, d'après Donald Trump, qui reçoit aujourd'hui le premier ministre israélien à la Maison-Blanche. Pendant ce temps, les négociations ont débuté au Qatar entre délégations du Hamas et d'Israël. En Colombie, le commanditaire présumé de l'attentat contre un candidat à la présidentielle arrêté par la police, et puis le leader spirituel des bouddhistes et défenseur de la cause tibétaine, le Dalai Lama, a soufflé ses 90 bougies.
RFI.
L'appel pour un cessez-le-feu à Gaza, relayé jusqu'au sommet des BRICS, les puissances émergentes qui se sont retrouvées hier à Rio sous les auspices du président Lula. Dans son discours liminaire, le président brésilien a réitéré l'appel à cesser les hostilités.
Absolument rien ne justifie les actes terroristes perpétrés par le Hamas. Mais nous ne pouvons pas rester indifférents face au génocide commis par Israël à Gaza, le massacre indiscriminé de civils innocents et l'usage de la faim comme arme de guerre. Une solution ne sera possible qu'avec la fin de l'occupation israélienne et l'établissement d'un État palestinien souverain à l'intérieur des frontières de 1967.
Et dans leur déclaration conjointe, les BRICS ont réclamé un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, ainsi que le retrait complet des troupes israéliennes de l'enclave. Benjamin Netanyahou, lui, est attendu à la Maison-Blanche dès aujourd'hui, reçu par Donald Trump, pour qui il y a de bonnes chances qu'un accord soit obtenu dans la semaine. Dans le même temps, les négociations entre Israël et le Hamas ont débuté à Doha, au Qatar, d'après une source palestinienne. Et ce, malgré les réticences du premier ministre israélien, pour qui les dernières demandes du Hamas sont inacceptables. Alors de quelle demande parle-t-on? Que contient vraiment ce projet de cessez-le-feu? Réponse avec Yelena Tomic.
Selon la chaîne Al Jazeera, qui a obtenu une copie du texte, la proposition soumise au Hamas comprend une trêve de 60 jours, pendant laquelle le mouvement relâcherait 10 otages encore en vie et 18 corps selon un calendrier précis s'étalant sur 5 dates. Israël libérerait en échange un nombre non précisé de prisonniers palestiniens qui doit être négocié ce dimanche à Doha. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, toutes les opérations militaires israéliennes devraient cesser. Les activités aériennes au-dessus de Gaza, militaires ou de renseignement, serait quant à elle suspendue 10 heures par jour ou 12 heures les jours de libération des otages. Après la remise des 5 corps d'otages prévus au 7e jour de la conclusion de l'accord, les forces israéliennes seraient redéployées dans le sud de la bande de Gaza, conformément aux cartes préalablement approuvées pour faciliter l'acheminement de l'aide. L'aide humanitaire sera acheminée via des canaux convenus, notamment l'ONU et le Croissant Rouge. Les discussions à Doha devraient également préciser des points sensibles comme le volume de l'aide, le contrôle du point de passage de Rafah et un calendrier pour le retrait complet des troupes israéliennes réclamées par le Hamas mais qui ne sont pas garanties dans la proposition.
Yelena Tomic, les négociations engagées à Doha qui n'arrêtent pas pour autant la guerre. Encore 26 morts hier à Gaza dans les bombardements israéliens. En Cisjordanie occupée, là, 2 hommes ont été tués par l'armée d'après l'autorité palestinienne. Au Yémen, cette fois, des médias contrôlés par les Houthis font état de plusieurs frappes israéliennes sur le port stratégique d'Al-Odeida et d'autres zones contrôlées par les rebelles. Ridicule, voilà comment Donald Trump qualifie la décision d'Elon Musk de créer son propre parti politique, le Parti de l'Amérique. Le patron de X et Tesla vend debout dernièrement contre la mégaloi budgétaire de son ancien allié et il n'est pas le seul. 20 évêques américains viennent de signer une lettre dénonçant la politique moralement répugnante de Donald Trump. Dedans, il dénonce la réduction des dépenses de santé, des bons alimentaires, mais aussi les fonds alloués à la campagne d'expulsion de migrants. Rien n'est moins chrétien que ces mesures, critiquent les évêques. Un appel rejoint par plusieurs responsables d'autres religions. Karine Auton aux États-Unis pour RFI.
Premier reproche de l'Église catholique américaine contre la loi budgétaire phare de Donald Trump, elle attribue 150 milliards de dollars à des campagnes d'expulsion massive et des raids anti-immigration à travers le pays. Le budget de détention de la police spéciale ICE passerait ainsi de 3,4 à 45 milliards de dollars. C'est plus que le financement combiné des 50 prisons fédérales. Sur CNN, l'archevêque de Washington a condamné cette chasse, ainsi que le fait que les lieux de culte ne puissent plus être considérés comme refuges. Le cas cardinal McElroy.
Ce n'est pas juste incompatible avec les enseignements catholiques, c'est inhumain, c'est moralement répugnant. Le gouvernement a le droit d'expulser des personnes condamnées pour des crimes graves, notamment violents. Mais là, il ne s'agit pas de cela. C'est une tentative de terroriser les sans-papiers.
Deuxième critique, cette loi prévoit des coupes sombres dans la couverture santé et l'aide alimentaire pour des millions d'Américains à faible revenu. 1 000 milliards de dollars en moins pour le financement de Medicaid, par exemple. Les évêques notent que la loi transférera la richesse des 10% les plus pauvres vers les 10% les plus riches, creusant ainsi encore plus l'écart entre eux. Et cela constituera un échec moral pour la société américaine dans son ensemble. Karine Hutton, New York RFI.
Et Donald Trump se rendra probablement vendredi au Texas après les inondations meurtrières. Dernier bilan des autorités, près de 80 morts. Les secours recherchent toujours une dizaine d'enfants qui participaient à un camp de vacances. RFI 18h06 à Bogota. La police colombienne annonce l'arrestation du commanditaire présumé de l'attentat contre Miguel Uribe, sénateur et candidat à la présidentielle. Début juin, un adolescent de 14 ans lui avait tiré dessus en plein meeting. Touché à la tête, Miguel Uribe est toujours plongé dans le coma à l'heure actuelle. À Bogota, Marie-Ève de Teuf.
Pas moins de 190 policiers travaillent sur l'enquête depuis un mois. Le tireur adolescent avait été capturé sur le coup. Trois personnes ont été arrêtées dans les jours suivants, dont une femme. Samedi, le ministre de la Défense, dont dépend la police nationale, a annoncé l'arrestation du commanditaire de l'attentat, José Arteaga, connu dans le milieu sous l'alias de El Costeño, l'homme qui vient de la côte. Selon les autorités, El Costeño était à la tête d'un gang criminel dans les quartiers sud de Bogota. Il a organisé, je cite, « l'avant, le pendant et l'après » de l'attaque criminelle du 7 juin. Le ministre de la Défense a précisé que El Costeño avait négocié l'exécution du crime pour 1 milliard de pesos, environ 250 000 dollars. C'est dire que José Arteaga n'est pas le commanditaire suprême de l'attentat. Il n'est qu'un maillon de la chaîne et la question de savoir qui a voulu tuer Miguel Uribe reste posée. Les policiers ont encore du pain sur la planche. Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
Il est l'un des leaders spirituels les plus populaires au monde. Le Dalai Lama a fêté hier son 90e anniversaire. Considéré comme un dangereux séparatiste par Pékin, le prix Nobel de la paix incarne dans le monde entier le combat pour la liberté du Tibet. Et pour marquer cet anniversaire, des cérémonies se sont tenues au sein des communautés tibétaines et bouddhistes partout à travers le monde. C'était le cas notamment à Paris, à la grande pagode du bois de Vincennes, siège de l'Union bouddhiste de France. Anastasia Becchio s'est rendue sur place pour RFI.
Dans la cour de la grande pagode décorée de fanions multicolores, Dolkar, jeune femme en robe traditionnelle, entonne l'hymne tibétain et essuie une larme.
Pour nous, les 90e anniversaire de Dalai Lama, c'est très très important. C'est vraiment un symbole pour nous, symbole de la paix. Et là, il est âgé, on s'inquiète de comment il va bien, est-ce qu'il aura la bonne santé et tout ça. On fait
bonjour
on a tout ce qu'il faut. On a soutien de la monde entier.
Mais
en même temps, on inquiète aussi
hein,
pour notre futur. Parce que la puissance de la Chine, tout ça, c'est compliqué.
Pour débuter cette cérémonie, nous allons accueillir symboliquement le portrait de sa sainteté, le Dalai Lama.
En silence, les mains jointes, les participants accueillent le portrait du Dalai Lama. La question de la succession est dans bien des têtes. La Chine entend choisir un prochain Dalai Lama à sa main. C'est une question sensible et à la fois secondaire, estime Dorji Nima, vice-président de la communauté tibétaine à Paris.
Les croyances, on ne peut pas contrôler avec le pistolet. Donc, même pour le Panchen Lama qui a été désigné par le gouvernement chinois, on dit ouvertement, c'est le fake Panchen Lama de Chinois.
Loin des questions de succession, l'heure est à la fête. Une file d'attente se forme devant la distribution d'un plat de riz sucré censé apporter paix et prospérité.
Un reportage d'Anastasia Becchio auprès des communautés bouddhistes et tibétaines de Paris. Avant de refermer ce journal, un mot de l'Euro féminin de football. Bousculé tout au long du match, les Norvégiennes ont finalement battu la Finlande 2-1 et se qualifient pour les quarts de finale. La Suisse, pays hôte, se relance grâce à son succès 2-0 contre l'Islande. Et puis 4 ans après sa dernière victoire d'étape au Tour de France, Mathieu Van Der Poel s'est imposé ce dimanche lors de la deuxième étape à Boulogne-sur-Mer. Victoire au sprint pour le Néerlandais qui récupère au passage le maillot jaune.